13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission chaque jour, vous la connaissez, vous faire découvrir des hommes et des femmes qui agissent pour faire briller les couleurs de la France. Aujourd'hui, gros plan sur les guides gastronomiques. Hier, vous le savez, le Michelin a fait connaître son palmarès, mais vous allez voir qu'il existe bien d'autres éditeurs français. Elle fabrique du chocolat depuis 1814. C'est moi est aujourd'hui un des leaders dans son secteur. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis elle donne un coup de pouce à ceux qui n'ont pas de réseau ou vivent loin des grandes villes pour les aider à choisir une orientation, chemin d'avenir. Et la solution, c'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Et oui, hier, le Michelin est paru avec son lot de bonnes et de moins bonnes surprises. Mais au-delà des grands noms, il existe d'autres acteurs sur ce marché qui ont une autre manière de procéder. Et c'est à eux qu'on a eu aujourd'hui envie de s'intéresser. À mes côtés pour les accueillir, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Sibéras, DRH du groupe Solvay. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Dans le monde des guides, il y en a un qui, à sa manière, on peut le dire, a en quelque sorte révolutionné les choses, c'est le fooding. Bonjour Alexandre Camas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez fondé il y a 18 ans déjà.
Mais oui.
Le temps passe, dites-moi.
Oui, oui. Il y a 18 ans, il ne m'appartenait pas.
Oui, vous étiez deux au départ de l'aventure.
Ça. Ça a commencé avec des événements. Et puis, on faisait un guide à l'époque avec Nova, puis après avec Libé, puis après avec le Nouvel Obs, parce qu'on était juste journaliste assez... Enfin, pas pauvre, mais en tout cas, on n'avait pas les moyens d'entreprendre une grande aventure. Et puis, à un moment donné, on a fini par, en 2008, par créer notre propre guide, et à compte d'auteur quasiment. Et puis, c'est devenu un grand succès. Et donc, voilà, ça, l'aventure continue.
Alors, ça n'est pas complètement un hasard, hein, parce que je crois que vous êtes issu, vous, d'une lignée de bistrotiers de l'Aveyron.
Oui, c'est ça.
Donc, ouais, il y avait déjà ça dans le sang, finalement.
Oui, mais pas du tout la fibre journalistique, pour le coup. Ça n'a pas été simple d'expliquer à mes parents que je ne voulais pas faire ce qu'ils faisaient. Et donc, ça a même été plutôt un frein.
Ouais, vous y êtes revenu finalement d'une autre manière. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous avez inventé ce concept? Vous vouliez bousculer les codes, proposer autre chose que ce qu'on pouvait trouver finalement dans les institutions que sont par exemple le Michelin ou le Goemio?
En fait, dans les premières années, ce qui est assez drôle parce que c'était très potache et très bon enfant et on faisait les choses un petit peu pour emmerder le monde, le système. Et on revenait de voyage en tant que journaliste gastronomique de Londres, de New York, tout ça. Et déjà dans ces pays, il y avait vraiment l'envie de jouer à table, de s'amuser avec la nourriture, et qu'on n'avait pas du tout en France. En France, c'était très formel et très formaté. Vous aviez des bistrots à pot-au-feu, vous aviez les restaurants chinois et les pizzerias où manger des pizzas.
On mettait les choses dans des cases.
Exactement. Et vous aviez la grande cuisine, la haute cuisine, très très chère, avec des parkings à grandes voitures et des chefs 3 étoiles. Et puis en gros, il n'y avait rien d'autre. Vous aviez aussi beaucoup de journalistes gastronomiques, parce que tout ça était accompagné et figé, parce que les journalistes gastronomiques n'allaient que dans les restaurants quasiment tous dans lesquels ils étaient invités. Les écoles hôtelières ne juraient que par les étoiles. Et à un moment donné, on s'est dit, mais si ça continue comme ça, on va se muséifier et ça va devenir, on va s'encrouter.
Et,
on a décidé d'être un peu plus rock'n'roll. Et en le faisant, c'est beaucoup de méthode couée, vraiment, et de volontarisme au départ, parce que dans le fond, ces restaurants un peu rigolos, ludiques, récréatifs, que nous, on appelle les chefs, enfin, on appelle ça la cuisine d'auteur, les chefs qui s'amusent vraiment à faire ce qu'ils ont envie de faire sans se poser la question de ce qu'attendent de les guides, ils n'existaient pas.
Ouais, et puis, vous êtes allé beaucoup plus loin, parce que vous avez aussi, il fallait oser à l'époque, proposer des adresses, par exemple, de kebab.
Voilà, on mélangeait tout. Comme les restaurants qu'on défend aujourd'hui n'existait pas encore vraiment. Le seul moyen d'être un peu moderne, c'était finalement de dire, quand il y a un bon kebab, on le signale. Quand il y a un bon étoilé, on le signale aussi. Un bon bistrot aussi. Mais il n'y avait pas encore vraiment d'adresses qui étaient des vrais marqueurs de l'époque. Et puis c'est venu en 2004, 4 ans plus tard. Et d'ailleurs, on a créé au fooding le mot bistronomie.
Alors oui, c'est arrivé à partir. C'est vous, les inventeurs de la fameuse bistronomie. Elisabeth, je voudrais qu'on revienne au point de départ. Ça existe depuis quand, les guides gastronomiques?
Ça fait très longtemps. Souvenez-vous, enfin, tout le monde ne s'en souvient pas, l'almanach des gourmands, publié en 1803, on est au tout début du 19e siècle, et ben, il est considéré comme le tout premier guide gastronomique. Ensuite, un peu plus tard, hein, un siècle plus tard, vous avez le fameux guide Michelin qui paraît en 1900. Et ensuite, des guides un peu plus modernes comme Goemio, sorti en 1972, le Petit Futé en 1976, le Bottin Gourmand en 1981, le Champérard une année plus tard en 82 et le fameux Pudlowski en 1989 sous format papier classique pour les plus traditionnels, mais aussi en version numérique, comme vous, pour le fooding.
Oui, on va y venir à justement cette arrivée du digital. Que dit notre coach, Jean-Christophe ?
Bah déjà, fooding, pourquoi fooding, ça ne fait pas tellement restaurant ?
C'est un peu... C'est
le hasard. En tant que journaliste, j'ai fait une rime en ing dans un article qui a été repris. D'ailleurs, je crois que la première retombée, c'était sur Europe 1. Une journaliste en avait fait un petit édito. Et puis, il y avait à l'époque, on parle de 2000, sur Rive Droite, Rive Gauche, l'émission d'Ardisson. Ils avaient aussi repris le mot. Et tout le monde disait n'importe quoi parce que j'avais juste fait une rime. Et donc, les gens disaient ça vient d'Angleterre, ça vient d'ailleurs.
Et c'était fou des feelings, c'est ça ?
C'était fou des feelings. C'était une rime avec feeling. Et comme le mot s'est mis à buzzer, on l'a déposé, on est parti, on en a fait notre étendard. Donc c'était à la fois notre meilleur ennemi, notre pire ami, parce qu'on a été critiqué pour faire du franglais. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a inventé plein de mots français qui sont aujourd'hui dans le dictionnaire.
Ouais, bistronomie,
cave
en
à manger,
est un,
entre autres.
Effectivement. Voilà. Vous avez, et Elisabeth en parlait, lancé une appli, un site internet. Ça aussi, c'était important. Hein. Le digital, c'est aussi une nouvelle manière de communiquer.
Il fallait suivre. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que les guides, je pense qu'il n'y en aura plus. Il n'y aura plus vraiment de création de nouveaux guides, parce que je pense que c'est un peu la fin d'un monde. Donc, il y a ceux qui vont réussir à passer le cap de la modernité qui resteront. Sinon, il va y avoir des blogueurs, des tas de gens qui partagent des choses, des sites où tout le monde peut collectivement participer et donner son avis. Et moi, je pense pas qu'il y aura...
Il y aura plus de papier.
De nouveaux guides. Non, je parle même pas de la version papier, je parle même
du contenu.
D'une marque de contenu, de guide de restaurant. Ça coûte trop cher à faire. On est les seuls à démontrer qu'on paye nos restaurants et à être rentable, et personne d'autre a réussi à le faire. Il n'y a pas un guide aujourd'hui qui est rentable, il n'y a pas un guide aujourd'hui qui paye ses restaurants. Donc c'est très dur. Je pense que si on ne le fait pas, il n'y a pas de crédibilité. On n'apporte rien de plus que ce que peut faire un blogueur quand il a pris 3 photos et raconté son expérience. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas un métier qui est en fin de route, il prend des formes différentes.
Jean-Christophe ?
Ah ben ça, c'est intéressant parce que vous dites que vous êtes les seuls à payer votre assiette, si je puis dire.
Non, je ne dis pas qu'on est les seuls.
On va poser la question aux autres, qui arrivent.
Je dis qu'on est les seuls à être rentables en le faisant. Ah. Et en plus, on le démontre. C'est-à-dire que si vous allez sur notre site, pour chaque fiche de restaurant, il y a la note de frais qui a été payée le jour J. Et personne, il n'y a pas un guide en France qui est capable de le faire.
On continue à parler justement des guides gastronomiques français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Mais pourquoi pas, tiens, un guide qui parle de Paris et de sa banlieue. C'est la vocation du guide Lebé qu'on va feuilleter ensemble. A tout de suite sur Europe 1.
Et jusqu'à 14h, vous écoutez Le Meilleur de la France Bouge avec Raphaël Duchemin. À l'heure du déjeuner, à l'heure des vacances, eh bien, on se replonge dans les guides gastronomiques français.
Oui, dans l'univers des guides, c'est vrai qu'on trouve un peu de tout, les grands noms, les nouveau-nés, ceux qui font des choix, comme le guide Lebé. Bonjour Pierre-Yves Chupin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est vous qui le dirigez désormais. Quand Claude Lebé le crée, on est en 1987, il s'intéresse au bistrot, à la région parisienne. C'est clairement un parti pris.
Oui, c'était un parti pris parce que le souhait qu'avait Claude nous a quittés hélas il y a 2 ans. Donc le souhait qu'il avait, c'était de visiter chaque année tous les établissements. Un tel enseigne qu'il a la bonne idée, et on a gardé ça bien sûr, chaque repas est daté, c'est-à-dire que sur le guide, vous verrez, pour chaque restaurant, il y a le repas avec la date, donc c'est important pour le lecteur, mais c'est aussi important pour le chef, parce que le chef, il voit, tiens, il dit, c'est venu ce jour-là, et c'est vrai que ce jour-là, je servais bien une entrecôte avec une sauce béarnaise. Donc il y a une, dès le départ, de la part de Claude Lebé, qui avait des idées formidables, cette volonté d'avoir cette vérité en datant et en ayant à chaque fois le menu précis, en exigeant de ses enquêteurs qu'ils prennent à la fois une entrée, un plat, un dessert, un verre de vin et un café. C'est-à-dire d'être dans une situation réelle et non pas souvent on peut trouver, vous savez, la formule menu environ 50 euros, mm-hmm. sauf que quand vous y allez et que vous prenez une entrée, un plat, un dessert, un verre de vin, parce qu'on a envie de boire comme
vous
quand on va
au
restaurant, on est à 120, 150. Donc de passer de 50 à 120 euros, dans la réalité, on préfère éviter ça, nous, en étant précis avec le prix exact de ce que le consommateur a payé.
Et vous partez du principe, et vous le disiez, hein, que le restaurateur n'est pas pris à l'improviste, c'est-à-dire qu'il est informé du jour de passage de...
Ah non, surtout pas, non, au contraire, nous, le Les enquêteurs sont incognito, à savoir que les enquêteurs ont un autre métier. Donc, si demain vous voulez venir, vous voulez devenir enquêteur, Guy Lebet, vous le pouvez. Il y a un notaire, un avocat.
Ah, je vois qu'il y a des gens que ça intéresse.
Je peux voir après l'émission.
donc c'est au contraire très proche de la réalité de l'expérience restaurant. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une autre vie, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont, bon, c'est pas le métier. Et ils vont au restaurant, ils ont leur grille de notation, ils payent leur note, là on y tient nous aussi, et donc c'est un système qui se veut celui de l'expérience originale.
Comment est-ce que vous arrivez dans l'aventure? Pourquoi est-ce que vous décidez de racheter les Guides Lebet en 2011?
Le point de départ, c'est la création d'un magazine qui s'appelait Cuisine et Terroir.
Oui.
Et donc là, c'était une autre idée, c'était la volonté d'aller rencontrer la vraie cuisine, celle des terroirs, au-delà, vous savez, au-delà de la vallée, dans les lieux où plus personne ne va. Et donc là, le plaisir aujourd'hui, c'est d'être plus proche des chefs, mais dans les cuisines, parce qu'on a une volonté, nous, mettre en avant la qualité de la cuisine. Donc on parle des chefs, bien sûr, mais par exemple...
Vous dites c'est l'assiette qui nous intéresse.
C'est l'assiette jusqu'à... On va bientôt organiser un événement, comme chaque année, on remet le prix des meilleures créations culinaires de l'année. Donc on met en avant ce qui se passe d'intéressant dans l'assiette. Et après, bien sûr, on parle des chefs, mais... Les chefs, je pense qu'on en a peut-être un peu trop parlé, du moins, et je pense que c'est les chefs qui sont prêts à le reconnaître aujourd'hui. C'est peut-être plus intéressant, et surtout quand on sait qu'il n'y a pas qu'en France qu'on mange bien, je veux dire, parce que si on a eu cette volonté de parler des plats, c'est parce qu'on a vite constaté qu'à Londres, on mangeait très bien, alors que jusque-là, on riait toujours de la cuisine anglaise, mais il y a très très bons restaurants en Angleterre. L'Allemagne aussi, hein, faut pas oublier que nos amis alsaciens, s'ils nous écoutent, ils vont souvent de l'autre côté de la frontière parce qu'on mange très très bien aussi en Allemagne.
Elisabeth, chaque guide a sa spécificité, on peut dire ça?
Oui, c'est un peu ça. Par exemple, le Michelin, le fameux guide rouge, bah alors lui, ce sont des étoiles hein, qu'il décerne. Il vient justement de dévoiler son édition de 2019, une année un peu particulière, parce que tant en nombre de nouveaux étoilés qu'en femmes primées, 75 étoiles, dont 68 une étoile. Par exemple, le Bottin Gourmand, c'est un peu comme chez Lebet, il s'appelle puis sur un réseau d'enquêteurs chargés de visiter les restaurants. Le guide Bottin Gourmand, là aussi, il est devenu numérique en 2014. Ou encore, vous avez chez Pudelot, du critique Gilles Pudlowski. Là, ce sont des assiettes pour symboliser les meilleures tables gastronomiques, les marmites pour signaler les bons rapports qualité-prix, les tire-lire cochons pour les adresses à moins de 30 €. Donc, chaque guide a sa spécificité.
Question ou remarque de notre coach, Jean-Christophe?
Le coach, c'est un DRH, alors il va demander comment on recrute, puisque c'est des gens qui ont un autre métier, alors vous les sélectionnez comment?
Il y a un climat de confiance, il y a un relationnel, et le relationnel, bien sûr, il passe dans ces cas-là par un repas. C'est rien de tel que de voir quelqu'un à table pour comprendre un peu si c'est à manger, s'il a envie de manger, et s'il mange bien.
D'accord, donc les gens peuvent candidater,
Bien sûr, on recrute toujours. Il faut renouveler, au contraire, il ne faut surtout pas s'installer dans une routine. En plus, on a envie de rajeunir, on est toujours très proche. Ouais.
Elisabeth,
ils sont bien rémunérés, ces enquêteurs mystères?
Non, la mode de rémunération, on rembourse la note et on rajoute une note de droit d'auteur qui est de 15 € par table, donc on ne gagne pas d'argent, mais on peut aller au restaurant en y allant presque gratuitement.
Oui, il y a une dimension plaisir qui entre en jeu. Chez vous, au Fooding, là pour le coup, vous étiez deux au départ, hein, on l'a dit. Aujourd'hui, ça s'est étoffé l'équipe.
Oui, c'est pareil, il y a un réseau d'enquêteurs qui ont tous d'autres métiers pour la plupart. Et on a une cinquantaine de correspondants Paris, région. Et c'est de la même manière, on rembourse la note de frais. Et en plus de rembourser la note de frais, on paye au feuillet journalistique, quoi.
On reste ensemble, on continue à feuilleter justement les guides gastronomiques français aujourd'hui.
Il est 13h20. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si vous voulez aussi savoir ce qui est vraiment dans votre assiette, comment c'est cultivé en bio, pas en bio, avoir des détails sur la traçabilité des produits, c'est à ça que s'intéresse Écotable, qui vient tout juste de démarrer. Et on va la découvrir ensemble dans un instant sur Europe 1.
Excès
vos papilles dans la France bouge aujourd'hui jusqu'à 14h sur Europe 1. La variété de nos terroirs, la qualité de nos plats. La France reste un acteur majeur de la gastronomie mondiale, Raphaël Duchemin.
Notez les restaurants, les chefs, les plats classés, déclassés. C'est vrai que c'est un métier, mais aujourd'hui, phénomène de société oblige, eh bien, les clients ont aussi très envie et besoin de savoir d'où viennent les produits qui ont été cuisinés et si la table à laquelle ils vont aller s'asseoir est ce qu'on appelle éco-responsable. Bonjour Fanny Giancetto.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Écotable. Vous avez en fait voulu mettre en avant ce que vous appelez une communauté de restaurants éco-responsables. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les critères sur lesquels vous sélectionnez?
Tout à fait. Nous, en fait, on ne se décrit pas spécialement comme un label, mais en fait comme une vraie communauté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on identifie, on valorise et on accompagne les restaurants qui sont dans une démarche éco-responsable.
Alors c'est quoi être éco-responsable aujourd'hui dans un restaurant?
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé toute une série de critères qui représentent tout l'impact environnemental du restaurant. Donc ça va être évidemment l'assiette, qui est probablement le plus palpable. Donc la part de végétal, d'où viennent les produits, est-ce que c'est une agriculture conventionnelle, est-ce que c'est une agriculture écologique. Mais ça va beaucoup plus loin, ça va être l'énergie, la consommation d'eau. Ça va être la consommation au consommateur. Est-ce qu'on est transparent avec sa démarche? Ça va être aussi les produits d'entretien qui sont utilisés, qui sont une source de pollution importante. On prend en compte aujourd'hui vraiment l'intégralité de la démarche éco-responsable et on classe les restaurants selon trois niveaux. Un écotable, deux écotables, trois écotables.
Vous venez tout juste de vous lancer, hein, c'est assez récent. Il y a un réel besoin, vous sentez que ça bouge vraiment sur ce marché-là?
Alors tout à fait, nous on l'a vécu comme ça. Écotable, c'est né d'un besoin de consommateur qui est qu'on avait besoin d'identifier des restaurants qui avaient une démarche de cuisine vertueuse. Et on n'avait pas cet outil, donc on a voulu le créer. Puis après, en rencontrant les restaurateurs engagés, ils nous ont dit « oui, c'est bien de nous mettre en avant, on en a besoin, mais on a aussi besoin d'être accompagné ». L'autre partie d'Écotable, l'accompagnement, alors pris forme. Et aujourd'hui, on a un vrai réseau d'acteurs pour faciliter la démarche éco-responsable du restaurant. On a des agriculteurs locaux, des éleveurs, des sociétés de recyclage, etc.
Ça signifie qu'il y a ceux qui font déjà et puis il y a ceux qui aimeraient faire davantage, qui viennent vous voir et qui vous disent aidez-moi à faire mieux, à être plus éco-responsable.
Tout à fait. Nous, notre objectif, c'est justement de créer un mouvement, une impulsion pour l'économie, pour la gastronomie durable. Mmh. Et le but, justement, c'est que des restaurateurs qui ne sont pas encore engagés mais qui ont envie d'avoir cet engagement viennent nous voir et qu'on facilite cette démarche.
Vous avez une dizaine de restaurants déjà qui sont référencés. Je suis allée regarder tout à l'heure. Il y en a une dizaine d'autres qui vont entrer, hein, puisque vous avez démarré au mois de janvier, donc c'est vraiment tout neuf. Vous avez des demandes aujourd'hui ailleurs qu'à Paris, à Marseille, à Lyon?
Tout à fait. On en a notamment pas mal à Lyon et à Marseille, mais on en a eu aussi à Bordeaux, on en a eu ailleurs en région. Et le but, c'est d'être national le plus rapidement possible.
Oui, vous l'avez dit, c'est parti d'une expérience personnelle, donc c'est important aussi, parce que c'est vraiment la remontée de terrain.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a des besoins de partout. Et notre objectif, c'est surtout pas d'être parisien, parce que le besoin, il est partout pour tous les consommateurs.
Alexandre Camas, ça vous parle?
Oui, en fait, moi, je trouve ça très intéressant, parce que je pense que c'est une vraie demande de consommateurs. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous pouvez vérifier ce que font les restaurateurs? Ils vous ouvrent leur cœur et ils vous disent tout, mais vous avez les moyens de contrôle ou ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent et vous faites confiance?
Alors, ils remplissent d'abord un questionnaire. Donc, au départ, c'est du déclaratif. Puis ensuite, on vient vérifier les factures. Puis, on vient sur place pour vérifier ce qui n'est pas vérifiable par facture. Par exemple, le tri sélectif. Donc, on a une vraie démarche. On fait un vrai audit du restaurant, ce qui nous permet d'identifier tout de suite les points forts et les axes d'amélioration et d'avoir du coup une vraie démarche d'accompagnement du restaurateur.
D'accord.
Que dit notre coach?
C'est économique, un restaurant éco-responsable ou c'est plus
c'est
cher, c'est moins cher?
Économique, écologique.
Alors
deux,
aujourd'hui, on a toutes les catégories de restaurants, ouais, qui sont déjà sur notre site internet. Donc ça va évidemment de la cantine, donc qui n'est pas cher, mais qui offre du bien manger, mais aussi, on a aussi du bistronomique, du gastronomique. Donc le but, c'est d'offrir justement toute une palette de restaurants.
Donc éco-responsable, c'est pas forcément plus cher?
Pas forcément, pas du tout.
Vous êtes combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe.
5 dans l'équipe, donc elle est en train de s'étoffer?
Oui, on en a besoin.
Elisabeth, on parle des guides, on se rend compte qu'il y a une belle diversité. Justement, il y en a qui veulent, eux, se diversifier.
Oui, les plus traditionnels, hein, ils veulent pas rester comme ça, se faire doubler par les tout nouveaux. Donc, par exemple, Goemio a changé de main avec un actionnaire majoritaire russe. Et Goemio, c'est pas seulement un guide, Goemio a pris le fameux virage du digital. Aujourd'hui, ce guide prodigue aussi des conseils pour enseigner aux futurs cuisiniers dans les écoles professionnelles.
Merci Elisabeth pour ces précisions. On va rester ensemble et vous allez voir que les auditeurs ont peut-être des questions pour vous. À tout de suite.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Qu'attendez-vous des guides gastronomiques? Les utilisez-vous pour choisir une table? À vous de nous le dire, on vous attend au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1.
Le meilleur de la France bouge, la suite. C'était à l'occasion de la publication du guide Michelin en janvier dernier. On retrouve Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Jean-Christophe Sibéras, notre coach aujourd'hui. À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag et nos invités, Alexandre Camas, cofondateur du guide Le Fooding, Pierre-Yves Chupin, directeur des guides Le B, et Fanny Giancetto, fondatrice d'Écotable, qu'on retrouve pour l'instant, peut-être un jour en papier, mais pour l'instant uniquement sur Internet, hein, Fanny.
Tout à fait, sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux.
Alors, on a pas mal de questions, Anissa, Olivier, oui. Ernest et puis...
Et Franck, ils sont tous les trois sur Twitter, ils nous ont écrit. Alors Ernest dit, ces guides de restaurants ne sont pas sérieux. Ils payent très mal leurs collaborateurs, les notes sont uniquement celles d'un pigiste, aucune valeur en fait. Mieux vaut de nombreux commentaires. Et Olivier enchaîne en disant « Moi, mon guide, c'est TripAdvisor justement, c'est drôlement efficace quand même. » Franck, lui, nous donne un bon guide, il dit « Mon préféré, c'est Table et Auberge de France, un très bon guide qui recense les bonnes tables. »
Alors, sur les critiques des critiques, qu'est-ce que vous préciser?
Il ne faut pas oublier qu'un guide, c'est d'abord c'est un livre, donc ça fait partie d'une certaine littérature, et je pense qu'on... En tout cas, on est chez Paul et Guy Lebeau, on est soucieux qu'il y ait un réel travail d'écriture, il y a un travail journalistique, même si nos enquêteurs ont un autre métier. Donc, ils ne viennent pas chez nous pour arrondir leur fin de mois, ils viennent chez nous pour assouvir leur plaisir. Donc, la critique sur le mode de rémunération, je ne la prends pas en compte. Mais faut pas oublier, oui, qu'un guide, c'est un... Nous, en tout cas, on veut que ce soit écrit, on veut que les textes soient courts ou longs. C'est l'auteur, c'est l'enquêteur qui décide s'il a envie de raconter son expérience en 5 mots ou en 10 lignes ou en 20 lignes. Donc, on n'est pas formaté, il faut trouver le temps. Et un guide, c'est aussi le plaisir le soir de feuilleter et d'imaginer un telle adresse. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des livres au départ.
Alexandre,
mais, moi, j'ai envie de dire que TripAdvisor, c'est vraiment c'est de la merde, quoi. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous n'avez pas une personne là, qui donne son avis. Vous en avez 10, mais des fois, vous avez le cousin, vous avez l'oncle, vous avez la tante.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification possible. C'est pour ça que vous dites que c'est de la merde.
On ne sait pas qui vous parle, en fait. Alors, je ne dis pas du tout que le Fooding a raison surtout et a l'exclusivité du bon goût. L'exclusivité du bon goût, ça peut être le vôtre personnellement, et vous faites confiance qu'à vous-même parce que vous n'avez pas les goûts des autres personnes.
On a tous
ça
un palais différent.
Le Fooding permet à des personnes, en tout cas, qui aiment bien les choix du Fooding, de le suivre. Pareil pour Michelin, probablement pareil pour le guide Le Bay, bientôt pour Écotable quand il y aura un peu plus de restaurants. Mais voilà, en fait, c'est vraiment d'abord un choix personnel. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a un an, je crois, en Angleterre, quelqu'un qui maîtrisait bien les algorithmes, parce que quand on aime TripAdvisor, on aime l'algorithme, on aime moins l'humain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a créé un faux restaurant, il a eu les meilleures notes, c'était le meilleur restaurant d'Angleterre, et en fin de compte, il n'existait pas. Donc il faut quand même, juste à un moment donné, relativiser. Et puis je suis tout à fait d'accord avec la personne qui critique les guides et la manière dont ils sont faits. Pourquoi pas? Il a le droit de le faire, mais parce que c'est une question de choix. Moi, je ne cherche pas à plaire à tout le monde.
Vous-même, vraiment. Vous critiquiez quelques années avant que Michelin entre au capital à hauteur de 40%. Oui, critiquiez le Michelin. Manifestement, il s'est réinventé depuis.
Alors,
il change les codes, en tout cas.
Je vais essayer de ne pas faire de langue de bois. Il y a toujours un problème
avec
Michelin.
Non, mais ça veut dire que la critique est possible.
Oui, bien sûr. Mais Michelin, le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu hier, puisque vous êtes également un grand média, qu'est-ce qu'on a retenu de Michelin? C'est un tel qui prend la troisième étoile
et un tel
qui la perd. Voilà. Sauf que le problème, donc ça c'est le problème des médias et de la couverture médiatique. C'est pas le problème du Michelin. Derrière, Michelin fait un boulot qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour les mêmes raisons qu'on aime le Fooding ou qu'on l'aime pas. Les choix sont faits et on peut les critiquer. Mais le problème, c'est que cette mise en avant médiatique et les reportages qu'on peut voir à la télévision, dans les grandes émissions de radio, etc., se font toujours sur ces gens-là. Donc du coup, on ne sait pas ce qui se passe vraiment en France. Et la cuisine vivante, pardon de le dire, elle n'est pas dans le passage de la deuxième étoile à la troisième étoile. Ça fait plaisir à une famille, à un village, à une région, à un département, mais ce n'est pas ça qui nous dit et nous explique ce que c'est que la cuisine en France.
Jean-Christophe ?
Ouais, moi je serais plutôt consensuel sur le truc, c'est-à-dire je prends le guide, ça n'empêche pas de regarder TripAdvisor ce qu'il raconte, et puis je vois si ça concorde ou pas. C'est pas forcément à opposer, c'est des trucs complémentaires.
Ah oui, non, mais encore une fois, heureusement, chacun fait ce qu'il veut.
Ce ne sont pas les mêmes attentes. Hein. C'est un contrat différent. TripAdvisor, c'est plutôt un service que vous attendez. Vous cherchez des adresses, vous voyez ce qu'il en est. Un guide, vous avez une relation beaucoup plus forte. C'est un texte, c'est la qualité d'un texte, c'est la qualité de l'information, c'est une habitude. On est le bay, on est fooding, on est peut-être Guémillot, donc c'est une relation.
Vous avez aussi des sites qui proposent des affaires, des restaurants à moins 20%, moins 30%, ouais. Une flûte de champagne offerte quand
la
vous arrivez.
Encore
une fois, ouais. C'est encore un autre choix, c'est encore autre chose.
Donc on est sur un autre positionnement.
Voilà.
La fourchette qui a été rachetée par TripAdvisor.
Oui, et TripAdvisor qui draine quand même pas mal de monde. Vous nous rappelez les chiffres ?
150 millions de consultations à travers le monde. C'est du pur participatif. Et le souci, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière cet avis posté.
Et juste pour clore, je voudrais donner les messages de Raphaël et d'Alexis Olivier qui nous ont appelés au 3921 et qui nous parlent, devinez de qui ? Du guide Michelin, évidemment. Je lis le Michelin régulièrement, mais surtout pour le critiquer, nous dit Raphaël qui est à Créteil. Et Alexis Olivier nous dit... quasiment la même chose. Je suis journaliste gastronomique. Je fais plus de 200 tables par an. Je suis un proche de Marc Vera. Ça, on n'a pas les moyens de vérifier tout de suite. Il a reçu un SMS alors qu'il a eu son étoile il y a moins d'un an. Normalement, le Michelin prévient le restaurateur quand il a des retours négatifs. Ça s'est toujours passé comme ça. Voilà pour quelques-uns des messages que nous avons reçus. Merci à tous les trois d'être venus nous parler des guides gastronomiques français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On va rester ensemble et on va s'intéresser à une entreprise qui fait du chocolat depuis 1814. Son nom, entre-temps, a changé. Elle exporte dans 30 pays. C'est moi et l'entreprise qui va bien, merci.
Le meilleur de la France bouge, se poursuit jusqu'à 14h sur Europe 1 avec à présent l'entreprise qui va bien. En janvier dernier, Raphaël Duchemin était entouré de chocolat.
Écoutez ce bruit, c'est celui du papier.
On adore.
Des papillotes, vous l'avez reconnu. Cette entreprise qui va bien, c'est moi. Bonjour Patrick Poirier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête du groupe depuis 2005 et avant vous, il y avait votre père, votre grand-père. Ce sont eux qui ont repris cette belle maison dont l'aventure débute en fait en 1814, à l'époque, on est à Arles-sur-Tech et c'est Louis Parès qui l'a créé dans les Pyrénées-Orientales.
Tout à fait, c'est une des plus vieilles chocolateries de France, 1814. On est sur le trajet du chocolat, du cacao qui remontait des Pyrénées, qui a traversé la frontière pour aller vers la France. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de chocolateries sur cette frontière.
Qui passait par l'Espagne et qui arrivait d'Afrique.
Exactement. Qui arrivait d'Amérique du Sud, donc les conquistadors ont ramené le cacao, qui passait par l'Espagne, qui remontait par la France, les cours européennes, donc plutôt les Pays-Bas par la suite, mais donc par le traité des Pyrénées, ces chocolateries espagnoles sont devenues françaises, et en 1962, mon grand-père a racheté cette petite chocolaterie à Perpignan, et donc elle a fait grandir. Et
alors puis, vous dites Perpignan, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de changements, hein, énormément d'aventures dans l'aventure de cette maison. À un moment donné, elle a même généré sa propre électricité à partir du système hydraulique. Puis, vous le disiez, ça s'est déplacé à Perpignan parce qu'il y avait eu des inondations. À l'époque, je crois qu'il y a 150 ouvriers déjà.
Oui, c'est une entreprise qui était une entreprise familiale, 150 personnes. C'est une entreprise qui, le chocolat, on a besoin d'énergie pour faire du chocolat. Donc, les chocolateries étaient installées sur le bord des rivières. Arles-sur-Tech, pourquoi ? Parce qu'il y avait la rivière Le Tech. Sauf que la rivière du Tech a débordé. Et donc, la chocolaterie s'est retrouvée dans la mer. Et à l'époque, le propriétaire, M. Cantalou, a reconstruit cette chocolaterie sur Perpignan.
Cantalou et Catala,
qui étaient donc les héritiers de la famille Parès.
Votre famille, donc, arrive en 62, c'est un coup de cœur ?
C'est un coup de cœur, mon grand-père a le choix. Il rentre du Maroc et il décide, et on lui propose deux entreprises, une entreprise de transport et une entreprise de chocolat. Aujourd'hui, moi, je préfère le chocolat.
Ah oui, vous avez bien raison. Donc, la marque C'est Moi, elle arrive plus tard.
La marque C'est Moi, en fait, c'est un patrimoine historique français. C'est Moi démarre à Grenoble. Donc, C'est Moi, c'est la famille Cartier-Million. Donc on retrouve là aussi les pâtes sucrues, les fameuses lustres crues. Et donc là, dans la famille Cartier-Million, il y a un partage qui est fait dans la famille. Et l'histoire dit qu'il y en a un des frères qui dit les pâtes c'est toi, le chocolat c'est moi. Et donc la chocolaterie qui s'appelait Dauphin à l'époque devient C'est moi. Il reste encore un bâtiment qui s'appelle C'est moi à Grenoble avec un arrêt de bus. Et aujourd'hui, c'est un endroit où il y a des start-up. Et donc il y a même Apple qui s'est installé. On a envoyé un petit tweet en disant il n'y a plus de chocolat, mais venez chez nous.
Et C'est moi, c'est une des entreprises, une des chocolateries que vous allez racheter parce que vous en rachetez plusieurs comme ça à travers la France. Je crois que vous avez aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 14 sites de production.
Exactement.
Sur le territoire français.
On a 14 sites de production. On a plus de 2600 salariés sur les sites de production en France. Donc, on est une entreprise familiale.
200 000 tonnes de produits par an.
Oui, parce que le chocolat, c'est un plaisir et parce qu'on a gardé des traditions régionales. Chaque société, en fait, est spécialisée dans différents types de production, et ce qui permet d'adresser le marché que nous, on considère comme le marché intérieur, qui est le marché européen aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on mange du chocolat C'est moi sans le savoir même, parfois.
Alors, C'est moi, on a notre marque C'est moi, on est des grands spécialistes du chocolat bio, mais aussi on est aussi des fabricants d'autres marques, on fait des marques de distributeurs, on fait des produits pour l'industrie. Donc le chocolat C'est moi, vous allez le retrouver dans des biscuits, dans des glaces, dans d'autres produits sur lesquels en fait notre chocolat va se retrouver à l'intérieur.
Que dit notre coach ?
Bah, le chocolat, c'est toujours un produit un peu spécial. Il y a pas mal d'émotions autour du chocolat, mais il y a aussi beaucoup d'exigences. C'est-à-dire, en fait, il vient d'où le chocolat ? Comment vous vérifiez les approvisionnements, la qualité ?
Chez C'est moi, on a fait un choix, c'est qu'on est entièrement intégré. C'est-à-dire qu'on va directement, on a notre propre usine de transformation. C'est un métier sur lequel il y a beaucoup d'intermédiaires. Et nous, on a choisi en fait, d'éviter les intermédiaires. Donc, on s'est installé en Afrique, en Côte d'Ivoire.
Oui,
on
c'est pour ça propre... que je parlais d'Afrique tout à l'heure.
Exactement, on a notre propre usine de transformation en Côte d'Ivoire. Et en même temps, on a des coopérations, des programmes de sourcing avec nos salariés sur le terrain, en Équateur, sur Sao Tomé, au Pérou et en République dominicaine. Donc, on a notre propre sourcing intégré. On a avec des contrats qu'on a avec des coopératives qui sont des contrats à long terme.
Vous le disiez, le bio, c'est important. Vous êtes un des leaders du bio dans le monde.
Oui, parce que le bio est à la fois un marché petit et un marché en croissance. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir avoir un sourcing de bio de qualité, le choix qu'on a fait, bien sûr, c'est de s'installer avec ces pays producteurs, d'aller travailler avec les coopératives, de les assister à la fois sur le goût, parce que le chocolat, c'est du plaisir, donc c'est du goût, mais aussi comment est-ce qu'on travaille sur le développement durable. J'aime bien la personne qui est venue tout à l'heure sur la partie développement durable, puisque nous, on pense que justement, aujourd'hui, cultiver du cacao en bio, c'est possible. On a des rendements qui sont plutôt intéressants pour les planteurs et une valeur ajoutée très intéressante pour les planteurs.
Notre petit ourson à la guimauve, puisque c'est vous aussi, il est bio aujourd'hui ?
Alors, on n'a pas l'ourson guimauve en bio, parce que on revient sur l'ourson guimauve à 1962. Et là aussi, il a été inventé à Villeneuve-d'Ascq en 1962. Et donc, on n'a pas voulu toucher la recette originale de l'ourson guimauve. On a l'original ourson guimauve. Tout le monde essaie de le copier, mais c'est l'ourson guimauve original.
C'est moi, c'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui. La suite, c'est quoi, juste d'un mot ? Vous allez encore grandir, encore nous donner du plaisir ?
La suite, c'est les gammes bio. Donc, on revient en gamme bio, en grande distribution, sur un rayon spécifique bio. Donc, toute une gamme bio qui va être lancée sur ce premier trimestre. Donc, vous allez pouvoir retrouver des produits C'est moi en rayon bio spécifique dans vos magasins préférés.
On a hâte d'y être. Merci d'être venu nous parler de C'est moi aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h45.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle les aide à s'orienter quand ils n'ont pas les clés. Chemin d'avenir est la solution pour les jeunes qui ne savent pas quelle filière choisir. En lice, au trophée de l'avenir d'Europe 1. A tout de suite.
La France bouge, je suis TF1 avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag avec maintenant, pour clore l'émission, une solution, une association.
Et elle s'appelle Les Chemins d'Avenir.
Oui, cette association aide les jeunes des petites villes et des campagnes à réduire l'isolement, un isolement qui peut parfois les bloquer dans leur choix et dans leur orientation professionnelle. C'est une association qui s'adresse en quelque sorte aux jeunes des territoires où il y a moins d'entreprises, qui vivent dans des milieux ruraux, les enfants de la France périphérique. Chemin d'Avenir a été lancé dans l'académie de Clermont-Ferrand et le principe, c'est de mettre en contact un lycéen avec un parrain et ils partageront ensemble leur expérience.
Bonjour Salomé Berlioux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association. Vous-même, je crois que vous avez grandi dans un bourg du département de l'Allier. C'est à partir de votre expérience personnelle justement que vous avez eu l'idée de fonder Chemin d'Avenir ?
Oui, effectivement, j'ai grandi dans l'Allier. J'ai eu une enfance donc campagnarde, vraiment très heureuse. Mais à l'adolescence et au moment notamment des questions d'orientation, ça a commencé à se corser. Et je me suis rapidement rendu compte que mes camarades et moi ont cumulé un certain nombre d'obstacles qui vont du manque d'informations, de l'autocensure, des questions de mobilité géographique à la fracture digitale, en passant par les questions d'opportunités culturelles, académiques, professionnelles sur notre territoire. Et que ça, c'est un sujet qui porte atteinte à l'égalité des chances entre les jeunes Français et qui est dans l'angle mort des dispositifs d'égalité des chances à l'heure actuelle.
Vous parlez souvent d'autocensure justement dans les différents papiers vous concernant. Il y a une autocensure particulière quand on vit dans les campagnes, quand on est jeune ?
Ce qu'on voit beaucoup avec les filles de Chemin d'Avenir, qui sont des jeunes qui sont donc de l'Académie de Clermont-Ferrand, mais aussi de Grenoble, de Nancy-Metz, bientôt de l'Académie de Lyon, et qui grandissent toujours dans soit des zones rurales, soit des petites villes, certaines villes moyennes, mais on va dire vraiment dans ce qu'on appelle la France périphérique, c'est que ces jeunes-là, collégiens, lycéens et étudiants, ils ont souvent tendance à intérioriser une espèce de sentiment comme quoi, je résume, ce n'est pas fait pour moi. Telle filière, je n'y ai pas le droit, tel métier, c'est impossible. Voilà, ça m'est interdit parce que je suis, je caricature un peu, mais le message est là, un jeune de la campagne. Et donc on peut lutter contre ça, notamment grâce à, et c'est ce qu'on fait avec Chemin d'Avenir, un système de mentorat individuel.
Alors quel est le principe ? Comment ça fonctionne ?
Alors le principe, c'est que chaque filleule de l'association, et ils seront 500 cette année, va être accompagnée par un parrain ou une marraine, un mentor, peu importe le nom qu'on lui donne, qui est un étudiant en fin de parcours ou un professionnel, donc on va dire quelqu'un qui a entre 23, 24 et 65 ans, et qui va lui donner accès à des clés, à de l'information en plus, lui donner confiance, lui donner accès aussi à des opportunités, par exemple des opportunités de stage en plus, et qui va petit à petit travailler avec ce jeune pendant 18 mois, selon une méthodologie qui a été conçue par l'association, pour l'aider à côté de son école, à côté de sa famille, à créer un parcours qui est un parcours à la fois académique, mais aussi pré-professionnel et citoyen.
C'est un peu du coaching.
C'est du coaching dans le sens où c'est très complet, où ça joue à la fois sur des ressorts psychologiques, mais pas uniquement, parce qu'il s'agit aussi de donner accès à ces jeunes à de l'information, et c'est vraiment le nerf de la guerre. On a plein de jeunes qui nous disent « Moi, si j'avais su que telle filière existait, évidemment, je l'aurais suivie. »
Que dit notre coach ?
Ben, je suis intéressé par le modèle. Alors, d'un côté, il y a des filiales, de l'autre côté, des mentors, des parents, mais comment on les marie, on les rapproche, voilà, comment ça match, voilà.
Oui, j'emploie ce mot parce que je sais que les équipes là sont en train de justement d'opérer ce processus de matching pour la nouvelle promotion, la troisième promotion de l'association. Donc il y a deux options. D'abord pour aller chercher les jeunes, on ne les source pas sur internet. On va passer beaucoup de temps dans les établissements et on parle à tous les élèves de quatrième et tous les élèves de première. Première chose. Ensuite, les parrains et les filleuls, on va les rassembler soit sur des critères de vocation. Une jeune fille qui rêve de devenir avocate aura une marraine avocate. Ça marche très bien, mais comme on le sait souvent au collège et au lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et dans ces cas-là, ce sera sur des critères de passion, de centre d'intérêt, la menuiserie, la littérature ou le sport.
Oui, mais alors la question, c'est comment on fait pour... je sais pas, moi, par exemple, moi, Jean-Christophe Sibéra, je suis dans une entreprise, comment je peux devenir votre parrain ou aider votre association ? Comment ça marche ?
C'est une très bonne question parce que j'imagine que parmi les auditeurs, il y a plein de personnes qui pourraient avoir envie de devenir parrain, d'autant plus que c'est un sujet qui fédère beaucoup parce que, en fait, en France, on a tous des attaches dans un petit village, soit c'est soi-même, soit c'est sa famille, soit c'est des amis. Et donc, en gros, il y a sur le site internet un formulaire à remplir qui est très simple, mais qui permet aussi de vraiment en apprendre plus sur le parrain pour pouvoir ensuite lui attribuer un filleul qui correspondra à la fois à sa sensibilité, à des actions qu'il a déjà menées. Encore une fois, je donnais l'exemple d'une avocate, mais un artisan qui aurait envie, pendant quelques mois, d'épauler un jeune homme qui rêve de devenir artisan, lui faire découvrir ce que c'est que son métier, incarner ce métier-là, parce que ça fait partie des difficultés que rencontrent ces jeunes parfois, ne pas avoir une incarnation des filières et des métiers.
Ça s'appelle Chemin d'Avenir. Évidemment, on peut vous contacter. Vous pouvez aussi nous appeler. On vous transmettra tous les messages s'ils arrivent jusqu'ici, jusqu'à Europe 1. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Jean-Christophe Sibéras qui était notre coach aujourd'hui. Nous, on se dit à demain, Elisabeth. Raphaël. C'était le meilleur de la France Bouge. Rendez-vous demain, donc de 13h à 14h sur Europe 1 pour parler de ces jeunes entrepreneurs qui reprennent des entreprises anciennes et défendent le Made in France. Dans un instant, une belle histoire racontée par Christophe Ondelat, celle du prince de Montmartre. Il s'habille en bleu, de la tête aux pieds. C'est Michou, patron de l'un des cabarets les plus célèbres de Montmartre depuis plus de 60 ans. Ondelat raconte, c'est juste après les infos.